Échange entre le député de la deuxième circonscription et la ministre des Outre-mer à l'Assemblée nationale. Emmanuel Tchibaou conteste l'organisation de la consultation anticipée. C'est la voix de la démocratie, lui répond Naïma Moutchou. La province sud adopte son budget 2026 en recul d'1 milliard par rapport à l'exercice précédent. Malgré les difficultés, la province affirme maintenir le cap pour soutenir la relance économique. Plus de front actif ni de flammes à l'île des Pins, mais de nombreux points chauds subsistent, ainsi que des fumées. 50 personnes et des moyens aériens restent mobilisés. En métropole, le message du ministre de l'Intérieur au préfet, Laurent Nunez, leur demande de renforcer la vigilance à l'approche des fêtes, notamment autour des marchés de Noël. Rugby et un tirage plutôt clément pour l'équipe de France pour la prochaine Coupe du Monde en 2027. En phase de poule, les Bleus affronteront le Japon, les États-Unis et les Samoa. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. Créer 10 000 emplois dans l'agroalimentaire, c'est l'ambition de la FINC qui a entamé une réflexion avec les acteurs concernés. Et nous en parlerons à la fin de ce journal dans les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. Nous serons en compagnie de la vice-présidente de la FINC, Marie-Amélie Molia, ainsi que de Maxime Costil et Sébastien Muller, qui sont respectivement directeur général et vice-président de l'ANIA, l'Agence nationale des industries alimentaires, qui sont actuellement sur le territoire. Des jeudis de l'économie à retrouver donc dès la fin de cette édition. Le ton est monté à l'Assemblée nationale entre le député Emmanuel Tchibaou et la ministre des Outre-mer lors de la séance des questions au gouvernement. Le député de la seconde circonscription a accusé l'État de vouloir passer en force avec la consultation anticipée des Calédoniens. Et Naïma Moutchou n'a pas apprécié cette mise en cause, Elisabeth Noir.
C'est le député de la seconde circonscription qui a ouvert cette séance de questions au gouvernement en interpellant la ministre des Outre-mer sur la stratégie de l'État en Nouvelle-Calédonie. Il met notamment en cause l'organisation d'une consultation citoyenne anticipée sur l'accord de Bougival dès le 15 mars, c'est-à-dire le jour du premier tour des élections municipales. Il reproche à l'État de mettre la charrue avant les bœufs et d'organiser une négociation au forceps.
Vous aviez dit ici à l'Assemblée que le report des provinciales était une étape pour donner du temps, du sens au dialogue engagé en Calédonie. Si vous vous inscrivez dans la continuité des accords de paix, une consultation référendaire non inscrite à l'accord de Nouméa sur un corps électoral, on se pose la question, sans amendement, sans fondement juridique, sur un projet contesté qui pourra être mis en œuvre après une révision constitutionnelle, c'est mettre pour nous la charrue avant les bœufs. La semaine dernière, au Congrès, en commission, les groupes politiques ont exprimé leur opposition ferme à ce type de négociation au forceps. L'éveil océanien, Calédonie Ensemble, Unis et UC et FLNKS se sont déclarés contre la consultation anticipée. Aujourd'hui, cette méthode nous rappelle des ministres qu'on a connus dans l'ancien temps. Je pense au ministre Ponce. C'est quoi la stratégie de l'État pour poursuivre cette trajectoire de décolonisation?
Le député Emmanuel Tchibaou qui prend quelques libertés avec la réalité des faits concernant la commission qui devait donner un avis sur l'organisation de la consultation. En effet, le groupe UNI a choisi de ne pas y participer. Le groupe UCF-LNKS a voté contre. Les élus calédoniens ensemble, l'éveil assoanien, ont réservé leur vote pour la séance publique. Et finalement, la commission a émis à la majorité un avis favorable avec les voix des loyalistes et du rassemblement. Mais dans sa réponse, la ministre des Outre-mer a d'abord réfuté l'expression de « négociation au forceps pour la consultation anticipée ». Donner la parole aux Calédoniens pour se prononcer sur leur avenir, c'est, dit-elle, l'exercice de la démocratie.
Je ne peux pas laisser prospérer cette petite musique qui consisterait à dire que la consultation anticipée, ce serait du forceps, vous avez employé cette expression, ou du passage en force. Donner la voix aux Calédoniens pour se prononcer sur leur avenir, précisément, il me semble que c'est l'exercice de la démocratie. La consultation anticipée dont nous parlons, ce n'est pas une demande de l'État. Je suis allée il y a quelques semaines en Calédonie, j'y ai trouvé des forces politiques qui ne se parlaient plus. Nous les avons remis autour de la table. Qu'est-ce qui a émergé de ces discussions? Quatre choses. Le soutien à Bougival, la nécessité d'apporter des éclaircissements, des précisions à l'accord, une consultation anticipée et un plan de relance, vous avez parlé de la situation économique, sur lequel nous sommes en train de travailler d'arrache-pied avec le Premier ministre, conscient de la situation économique très défavorable, très dégradée du territoire. Ce n'est pas une demande de l'État, c'est ce qui a émané des forces politiques elles-mêmes.
La ministre des Outre-mer, manifestement irritée par le procès qui lui est fait par Emmanuel Tchibaou, elle explique que c'est aux forces politiques calédoniennes de prendre leurs responsabilités.
Ce que je peux vous dire à ce stade, c'est que l'État met tout en œuvre, tout, monsieur le député, pour créer les conditions du compromis. Nous avons relancé le dialogue, nous avons remis du mouvement. Nous envoyons une mission de confiance. Elle est en pleine discussion, en plein travail avec les forces politiques aujourd'hui pour tenter justement de clarifier les points indispensables à cet accord du Bougival. Il y a un suivi qui est fait constamment avec tous les partenaires politiques, tous, y compris le FLNKS. Je les ai eus encore en vision il y a quelques jours. Je leur ai dit, je vous dois l'écoute et la transparence, et je ne dévie pas de cela. Mais vous allez me dire que nous pourrions proposer. Mais vous savez que l'État ne peut pas tout. Et d'ailleurs, si c'est l'État qui proposait ce qu'il fallait faire telle ou telle direction, vous seriez les premiers à nous critiquer, et vous avez raison. Il appartient aux forces calédoniennes sur place de prendre leurs responsabilités, parce que elles ne veulent pas repartir de zéro, elles me l'ont toutes dit. Il n'y a pas de projet alternatif aujourd'hui, et vous le savez, qu'il soit crédible, qu'il soit partagé. Le FLNKS, lui, veut repartir de l'accord Kanaky. Ça n'est pas la voie du compromis. Et je veux dire une chose, c'est que la situation là-bas, elle est très dégradée. Et donc j'en appelle à la responsabilité des forces politiques, parce que c'est l'avenir des Calédoniens qui se joue là-bas. Allez, toutes les conditions sont réunies pour avancer.
Merci, Madame la Présidente, et merci, Madame la Ministre.
Un échange un peu tendu à l'Assemblée nationale, alors qu'à Paris toujours, le Parti socialiste demande au gouvernement de suspendre la consultation citoyenne sur l'accord de Bougival. Dans un communiqué, il juge que cette initiative témoigne de l'absence de consensus réel sur l'accord signé le 12 juillet. Le Parti socialiste indique que le Parlement a entériné le report des élections provinciales pour laisser aux forces politiques locales le temps de conclure un accord sur l'avenir institutionnel. Pour lui, la consultation anticipée sur l'accord de Bougival, envisagée par le gouvernement, est en rupture avec l'esprit et la lettre de la loi organique qui a été adoptée.
Et pendant ce temps, la mission des trois facilitateurs arrivés lundi se poursuit avec des échanges dans la plus grande discrétion. Thierry Lataste, Rémi Bastille et Benoît Lombrière rencontrent l'ensemble des groupes politiques. Ils doivent tenter de consolider une nouvelle version de l'accord de Bougival, mais la tâche s'annonce fragile et difficile. Et puis l'actualité politique toujours, c'est aujourd'hui que Christian Théin doit revenir en Nouvelle-Calédonie, plus d'un an et demi après son départ, pour être incarcéré en métropole. Il reste mis en examen pour vol en bande organisée avec armes, destruction en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes et délits. Mais son contrôle judiciaire a été assoupli et il a été autorisé à rentrer en Nouvelle-Calédonie. Selon nos informations, l'avion qui le ramène doit se poser cet après-midi à Tontouta, en provenance d'Australie.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS avec justement notre question du jour. Craignez-vous que le retour de Christian Théin en Nouvelle-Calédonie crée de nouvelles tensions? Si vous le craignez, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Et puis la réponse à la question d'hier, 96% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS se disent défavorables à une labellisation des médias comme l'a proposé Emmanuel Macron. Ils ne sont que 4% à se dire favorables à cette labellisation. Une séance importante pour les élus de la province sud, réunis depuis ce matin dans la salle du conseil municipal de Nouméa. Ils ont notamment adopté le budget primitif 2026 de la collectivité, Nicolas Legrand.
Oui, il se monte à 50,1 milliards de francs pour 2026. Cela représente une baisse d'un milliard par rapport à 2025. La province sud affirme maintenir le cap malgré un contexte financier fragilisé. Ainsi, l'investissement représente une enveloppe de 10,4 milliards de francs. La province qui compte soutenir la relance économique en modernisant les infrastructures publiques et notamment ses administrations, les routes, les collèges ou encore l'habitat. De nouvelles mesures économiques permettent de présenter un budget de fonctionnement en baisse, lui, de 6% à 1,360 milliards de francs. Quant aux interventions et subventions, elles représentent 12,9 milliards en baisse de 6% par rapport à 2025. Mais malgré tout, l'accent reste mis sur l'enseignement, la santé et la protection sociale à hauteur de 54%. Un budget construit en estimant l'intervention de l'État au budget de la Nouvelle-Calédonie. Un piège, dira Philippe Dunoyer de Calédonie Ensemble. Philippe Michel parle, lui, d'un budget incertain, voire insincère, alors que l'année 2026 sera pour lui une année de vérité. Philippe Michel veut passer un message à l'État avant le crash annoncé de la Nouvelle-Calédonie. Calédonie Ensemble aurait souhaité qu'aucun exercice budgétaire n'ait lieu avant les réponses concrètes de l'État quant à l'intervention au niveau du budget de la Nouvelle-Calédonie. Sonia Backès, elle, a justifié son choix. La présidente de la province sud explique que sans ce vote du budget, la collectivité ne pourrait pas engager d'investissement en janvier et ainsi agir pour la relance de l'économie. Quant au député de la première circonscription, Nicolas Melsdorf, il a aussi répondu en affirmant que le plan de relance de l'État serait de 36 milliards de francs, mais que cette aide ne serait versée que si les partenaires calédoniens tombent d'accord sur l'avenir institutionnel. Et il a donc renvoyé Calédonie Ensemble au vote prévu lundi prochain au Congrès sur l'organisation de la consultation citoyenne. Les élus du Rassemblement, eux, ont évoqué un exercice dangereux avec une navigation en eau trouble. Si les élus du Rassemblement ont voté le budget pour protéger les populations, ils ont voulu là aussi adresser un message fort à l'État. Ce budget primitif a donc finalement été adopté. Calédonie Ensemble a voté contre. Le groupe FLNKS et l'éveil océanien se sont abstenus. La province sud a par ailleurs voté deux dispositifs pour l'emploi et le soutien à l'investissement. Le premier, c'est Sud Relance, dont on a déjà parlé. C'est une mesure qui permet aux entreprises de cofinancer leurs besoins en trésorerie. Une société pourra compléter un prêt contracté auprès d'une banque avec un financement de la province sud et BPI France. 1 milliard de francs d'ailleurs sont fléchés au budget à cette occasion. Et puis l'autre mesure, c'est Sud-Retour pour faciliter le retour des Calédoniens qui ont quitté le territoire depuis plus de 12 mois. La province Sud prendrait en charge 120 000 francs du billet d'avion pour une personne embauchée en province Sud et 60 000 francs par membre de sa famille. La province aidera aussi l'employeur en prenant en charge le premier mois de salaire. Voilà donc pour les mesures essentielles de cette assemblée de province Sud qui vient de se terminer à l'instant. À la mairie de Nouméa, Nicolas Legrand, RRB.
Merci Nicolas, il est 11h41. On va marquer une première pause dans ce journal. Les questions budgétaires encore à venir dans le reste de l'actualité en Calédonie dans un petit instant.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Les fêtes de fin d'année arrivent et vous n'avez toujours rien pour votre mari ni pour les enfants ? Chez Gémeaux, vous trouverez des tas d'idées cadeaux avec vos héros préférés, Lilo et Stitch, Hello Kitty, La Reine des Neiges, Vaiana, Pat Patrouille, Spider-Man, Pokémon, One Piece, Dragon Ball Z et plein d'autres encore. Chez Gémeaux, jusqu'au 7 décembre, il y a tout ce qu'il faut pour le plaisir d'offrir.
Gémeaux, taillé pour la vie de famille.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegales@rrb.nc ou au 25 46 46. RRB 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
La suite de l'actualité en Nouvelle-Calédonie, 2024, année de rupture pour le territoire. C'est le constat dressé par l'AFD qui a présenté ce matin son édition 2025 de l'Observatoire des communes de Nouvelle-Calédonie, Léana Colombo.
Et pas de réelle surprise concernant ce rapport de l'AFD qui confirme que l'année 2024 aura été un tournant social et économique pour la Nouvelle-Calédonie. La situation financière des communes a été durement affectée par la crise de 2024. Après une accélération en 2023, les investissements des communes ont connu un coup d'arrêt l'année suivante. De même, les dotations et participations, première source de recettes des communes, ont reculé de 16,5% sur un an, tout comme les recettes d'exploitation et les recettes fiscales qui enregistrent une chute conséquente. Toutefois, la situation se révèle moins dégradée qu'anticipée, explique Thomas de Gubernatis, directeur de l'Agence française de développement.
2024, année de crise, on voit une forte baisse des recettes de fonctionnement des communes, une réactivité assez rapide, des communes pour essayer de maîtriser leurs dépenses, puisqu'elles ont réussi à réduire leurs dépenses de l'ordre de 10%. Mais en fin de compte, une chute de leur épargne, tout de même, l'épargne qui leur donne la capacité à ensuite, notamment, investir sur le territoire. La Nouvelle-Calédonie, traditionnellement, a été considérée comme le bon élève des Outre-mer. Aujourd'hui, on voit que les ratios des communes se situent dans la moyenne, voire, pour le cas de l'épargne, encore légèrement au-dessus. Donc c'est plutôt positif. On voit qu'à fin 2024, les communes ont encore des moyens d'accompagner l'investissement.
L'AFD souligne également l'effort considérable et exemplaire des communes durant cette période particulière pour maîtriser leurs dépenses, permettant ainsi d'amortir partiellement le choc économique. Pascal Vittori, maire de Bouloupari, est président de l'Association française des maires de Nouvelle-Calédonie.
Les maires ont été très réactifs et donc dès le mois de juin 2024, ils ont pris des mesures pour réduire leurs dépenses budgétaires et pour se caler donc sur la diminution de recettes. Ce qui a permis donc aux communes de maintenir leur service à la population. Mais en même temps, il faut aussi relativiser parce qu'on voit que les communes de Nouvelle-Calédonie se portent encore pas trop mal si on compare à d'autres communes d'outre-mer et si on compare également aux communes de Mayotte qui ont été très touchées comme nous en Nouvelle-Calédonie.
Durant cette crise qu'a connue la Calédonie, les associations ont joué un rôle majeur dans le maintien du lien social, mais aussi économique. Ces dernières représentent environ 5% de l'emploi salarié en Nouvelle-Calédonie et génèrent une activité économique significative, même lorsqu'elles ne sont pas employeuses. Dans un questionnaire soumis aux communes par l'AFD, 100% des communes interrogées ont répondu octroyer des subventions à la suite de demandes reçues des associations. Pour autant, ces mêmes associations qui étaient déjà en difficulté avant mai 2024 peinent à garder la tête hors de l'eau. Des perspectives qui ne sont pas optimistes puisqu'elles devraient avoir une baisse de 13% de leurs ressources dans les années à venir. Quentin Rétali, directeur du chapiteau et coprésident du collectif des associations de Nouvelle-Calédonie.
On sait la situation budgétaire et donc dans le même temps que le besoin en action associative s'est développé, les financements pour les associations ont fondu parce que c'est généralement ceux qui sont le plus vite diminués. Alors là, les recherches dépendent énormément de chaque association et de chaque structure parce qu'on a tous des montages un peu différents. Il y a des recherches sur du financement à l'échelle nationale ou internationale évidemment, mais le principal il est quand même sur le territoire. Et ce qui a le plus disparu forcément c'est toute la part des autres ressources, c'est-à-dire des mécénats, des sponsoring, des petites ventes de prestations pour pouvoir permettre d'équilibrer les budgets. Et c'est ça le gros risque, c'est-à-dire que cette partie-là, c'est de la même manière que les entreprises du secteur privé ont été lourdement impactées, les entreprises associatives ont été extrêmement impactées aussi sur leurs ressources propres. Et il n'y a eu aucune forme d'aide qui a été déployée dans leur direction, contrairement à tout ce qui a pu être déployé sur les entreprises du secteur privé.
Selon les premières prévisions de l'AFD, 2026 ne s'annonce pas meilleur car les communes ne pourront toujours pas assurer l'investissement, d'autant plus que nous entrons dans une période électorale.
Et à propos des communes, notez que le conseil municipal de Nouméa se réunit ce soir à 18h avec deux points à l'ordre du jour, la décision modificative numéro 2 du budget primitif de la commune et une convention de financement dans le cadre du dispositif de solidarité républicaine pour l'année 2026. La situation économique de la Nouvelle-Calédonie n'est donc pas bonne et sans nier les difficultés qui existent, le PDG de l'IOM constate une résistance des entreprises calédoniennes. Yvan Audonat est actuellement sur le territoire. Il était ce matin notre invité. Après le choc des émeutes de 2024, la situation ne s'est pas effondrée davantage ces derniers mois, nous a-t-il dit, même si les entreprises les plus fragiles n'ont hélas pas pu maintenir leur activité. Yvan Audonat a rappelé une nouvelle fois que l'IOM avait joué son rôle de banque centrale en fournissant aux banques calédoniennes de la liquidité. L'Institut des missions d'outre-mer a par exemple assoupli de 200 points de base en 16 mois, ce qui est substantiel, le taux d'intérêt auquel les banques peuvent emprunter.
La production de crédit a chuté, donc ça veut dire que pour les banques, c'est moins de revenus. Elles aussi, elles ont souffert. Je ne veux pas donner l'impression que je défends les banques. Je crois que c'est important de bien comprendre le contexte dans lequel on est. On a fait en sorte qu'elles puissent malgré tout disposer des moyens de fournir de la liquidité à l'économie. Alors, la banque ensuite... elle fait son métier de banquier. Quand vous donnez un crédit face au client, vous analysez la situation financière du client. Malheureusement, vous avez des ménages qui voient leur situation financière se dégrader. Nos statistiques nous montrent que, par exemple, le nombre de dossiers de surendettement progresse spectaculairement. En réalité, il a doublé en Nouvelle-Calédonie. Ça reste modeste. Mais cette dynamique doit alerter. Vous avez, dans le même ordre d'idée, une augmentation des incidents de crédit. Donc, face à un client plus vulnérable ou fragilisé, le banquier, naturellement, va être plus prudent. Du coup, c'est important de prendre la mesure de ce phénomène et d'offrir des solutions d'accompagnement aux personnes dites fragiles. Ça, c'est notre métier à l'IOM. Les services que nous proposons, je trouve, ne sont pas assez utilisés, assez méconnus. Mes collègues de l'agence IOM de Nouméa m'en voudront parce que ça veut dire pour eux plus de travail, mais nous sommes là pour ça.
Et nous avons demandé au PDG de l'IOM, Yvan Audonat, si l'on pouvait parler de paupérisation de l'économie calédonienne au regard des difficultés que rencontrent de plus en plus de Calédoniens.
Il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est le très ralentissement de l'inflation. L'inflation, c'est aussi le pouvoir d'achat. Sur le dernier relevé à fin septembre 2025, c'est nettement inférieur à 2%. 2%, on sait que c'est la cible qui permet de caractériser la stabilité des prix pour la Banque Centrale Européenne et à laquelle nous nous référons également ici. Donc, moins d'inflation, c'est toute chose égale par ailleurs, bien sûr, plus de pouvoir d'achat pour les ménages. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, ce sont les pertes d'emplois, donc les pertes de revenus pour un certain nombre de personnes, et donc effectivement, une augmentation des taux de pauvreté. Alors, on manque un peu de recul pour bien les mesurer, mais comme je vous l'ai dit, à travers des indicateurs comme les incidents de paiement ou les dépôts de dossiers de surendettement, vous avez l'indication d'une vulnérabilité accrue pour un certain nombre de ménages qu'il faut évidemment accompagner. Je pense que ça, c'est important de bien identifier. Cet accompagnement pour maintenir une cohésion de la société calédonienne est à mon sens, fondamental dans la situation actuelle.
Yvan Audonat, le PDG de l'IOM, qui était donc notre invité ce matin à 7h30. L'intégralité de cet entretien est à retrouver sur rrb.nc. À l'île des Pins, le feu est fixé, mais la situation reste fragile et les équipes de pompiers s'activent toujours pour éviter une reprise du feu, car il existe encore de nombreux points chauds. C'est ce que nous a expliqué le capitaine Alexandre Rossignol, officier de permanence de la DSCGR.
Ce matin, il n'y a plus du tout de foyer actif, donc il n'y a pas de front de flamme visible actif. Par contre, il persiste pas mal de points chauds avec pas mal de fumée blanche, qui est due à un feu qui est en sous-bois dans une forêt humide. Une partie du foyer a impacté l'ancien dépotoir avec les anciens déchets, et ça fume beaucoup. Nos équipes sont à pied d'œuvre. On renouvelle le dispositif ce matin avec deux hélicoptères bombardiers d'eau, plus un hélicoptère de la province sud, et une trentaine de personnes qui font du travail de pionnier. Donc le travail de pionnier, c'est vraiment aller gratter le feu avec et faire des pare-feux avec une technique qui s'appelle le feu tactique. Ça a apporté ses fruits parce que là, pour l'instant, le feu, est, on va dire qu'il est plutôt fixé.
L'important dispositif avec plus de 50 personnes mobilisées restera en place au moins jusqu'à lundi. Les conditions sèches et venteuses ne favorisent pas le travail des pompiers.
Au cœur de Noël avec l'OPT. Pour que Noël soit une fête pour tous.
N'hésitez pas, venez à la radio pour participer à cette opération du cœur et faire en sorte que tous les enfants puissent bénéficier de la magie de Noël. C'est pour eux que cette opération est lancée, pour ces enfants dont les familles en difficulté ne pourront pas forcément leur donner un cadeau. Alors, votre générosité fera des merveilles. N'hésitez pas, venez à RRB entre 7h et 19h, déposez vos cadeaux. Vous le savez, ils seront tous distribués aux familles suivies par nos partenaires, le Secours catholique, la Société Saint-Vincent de Paul et la Croix-Rouge. On vous attend tous les jours. Vous êtes déjà nombreux à être passés, mais il y a tellement de besoins que votre générosité fera encore merveille. Merci à tous et on vous attend à la radio. Il est 11h52. Dans un instant, l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Rendez-vous samedi 6 décembre, Parc Provincial de la Rivière Bleue pour une grande journée porte ouverte. Venez redécouvrir le Grand Sud, ses activités et ses paysages magnifiques. Au programme, initiations sportives, marchés, rencontres et belles surprises. L'entrée est gratuite et les navettes aussi. N'oubliez pas, c'est le 6 décembre au Parc Provincial de la Rivière Bleue. Toutes les infos sur province-sud.nc. La Province Sud, agir pour l'avenir.
Évadez-vous au Phare Amédée. Passez une journée inoubliable avec l'équipage souriant de Maridée. Téléphone 26 31 31. Réservez votre place sur notre site web amedeeisland.com.
Toute l'info en trois lettres. RRB.
La suite de votre journal avec l'actualité en métropole, on retrouve Jean-François Bodin.
Et Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, appelle les préfets à faire preuve de vigilance pour la période de Noël. Les menaces d'attentats terroristes sont toujours réelles, mais il les alerte aussi sur de possibles sabotages ou des actions plus ou moins violentes autour des marchés de Noël, avec des cibles identifiées. Jean-Baptiste Marty pour Europe 1.
Dans le viseur des autorités, les militants d'extrême gauche et la mouvance pro-palestinienne, des activistes anti-Noël particulièrement surveillés et qui pourraient chercher à perturber cette fête religieuse. Sylvain André, policier à Strasbourg du syndicat Alliance.
Il y a certaines interdictions de paraître sur le marché de Noël qui ont été faites, certaines assignations à résidence aussi, pour effectivement isoler ces individus afin qu'ils ne viennent pas perturber ce marché de Noël.
Les forces de l'ordre redoutent des actions coup de poing.
Il y a toujours le risque, comme ça s'est vu dernièrement dans certaines villes de France, où on vient perturber les fêtes de Noël avec certaines actions, en l'occurrence dégradation de sapins. On n'est pas à l'abri puisque on a eu le cas sur plusieurs pays, que ce soit les crèches ou autres qui sont remis en question.
Le week-end dernier à Bruxelles, la tête d'une figurine de Jésus a été volée. La France pas épargnée non plus. Des statuettes de la crèche du marché de Noël ont été brisées à Amiens. Alors pour faire face à cette menace mais aussi à celle terroriste toujours présente, les patrouilles mobiles ont été renforcées. Le plan Vigipirate est d'ailleurs toujours au niveau urgence attentat, degré le plus élevé. L'attaque sur le marché de Noël de Strasbourg en 2018 est encore dans les têtes. Un terroriste islamiste avait alors ouvert le feu, faisant 5 morts et de nombreux blessés.
La menace terroriste reste donc présente et la commission d'enquête parlementaire sur les liens entre partis politiques et islamisme poursuit son travail. Elle a auditionné la nuit dernière pour nous la patronne des écologistes, Marine Tondelier, qui estime que ce n'est pas un problème.
Je ne suis pas inquiète quant à un entrisme potentiel de l'idéologie islamiste ou encore terroriste. Ce qui m'inquiète en revanche, ce sont les amalgames qui blessent, les vécus que l'on nie et une menace réelle qui peut, dans certains cas, être instrumentalisée pour fragiliser des individus, leurs organisations et, au bout du compte, nos libertés collectives.
Marine Tondelier dénonce un climat islamophobe. Elle nie la menace réelle d'entrisme islamique en politique. Elle a enfin déclaré que porter le voile, prier ou manger halal ne constituait pas une menace pour la République. Les chiffres de la délinquance rendus publics par le ministère de l'Intérieur, ils montrent une augmentation et même une surreprésentation des étrangers dans les actes délictueux, mais aussi un accroissement de mineurs toujours encore plus jeunes impliqués dans la délinquance. Et puis toujours en bref, ce dramatique accident dans le Gard près d'Alès. Une voiture conduite par un adolescent de 14 ans a fait une violente sortie de route sur la portion de village limitée à 30 km/h. La voiture a terminé sa course dans la piscine d'un particulier sur le toit. Les trois occupants de la voiture n'ont pas eu le temps de s'extraire et sont morts noyés. Il s'agit de deux mineurs, le conducteur de 14 ans et un passager de 16 ans, ainsi qu'un autre jeune de 19 ans. Les policiers ont retrouvé à bord de la voiture des bonbonnes de gaz hilarant et du cannabis. Ces trois jeunes étaient connus des services de police. Un coup dur, très dur pour les proches de Christophe Glaize. Ce journaliste français est incarcéré en Algérie pour apologie du terrorisme. Son procès en appel s'est déroulé la nuit dernière pour nous et la peine de 7 ans de prison a été confirmée. Wilfried de Villers.
Christophe Glaize écope au final de la même peine qu'en première instance. Un choc pour sa famille d'abord, pour son frère Maxime qui toute la journée s'est accroché à l'espoir d'un possible acquittement ou d'une peine bien moins lourde.
L'espoir est vraiment retombé. J'imagine mon frère dans les prisons algériennes pendant 7 ans et c'est vrai que c'est pas simple et on va continuer le combat pour qu'il y ait une issue favorable possible.
À la barre du tribunal de Tizi Ouzou cet après-midi, Christophe Glaize a pourtant appelé à la clémence, demandant pardon, reconnaissant aussi beaucoup d'erreurs journalistiques. D'abord, celle d'être entré avec un visa touristique en Algérie alors qu'il se rendait dans le pays pour réaliser un reportage. Face au magistrat, le journaliste a aussi assuré qu'il n'a jamais eu l'intention de nuire et qu'il n'a aucune rancœur vis-à-vis de l'Algérie. Collaborateur des magazines SoFoot et Society, Christophe Glaize est parti en Algérie en mai 2024 pour un article sur la jeunesse sportive de Kabylie. La justice lui reproche notamment ses échanges avec l'un des responsables de ce club de foot, Ferhat Mehani, également président du mouvement d'autodétermination de la Kabylie, organisation jugée terroriste par le pouvoir algérien. Christophe Glaize le réaffirme aujourd'hui, il n'était absolument pas au courant de ces faits.
Il est 11h57, on va se retrouver dans un petit instant pour parler sport et notamment du rugby. L'équipe de France connaît ses adversaires de poule pour la prochaine Coupe du Monde de rugby en 2027.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Après les Nickel Boys, la compagnie Caravan Spoutnik revient au Théâtre de Lille avec Jamais fini Noël, une comédie chorale originale, pétillante et impertinente. Les 6 et 7 décembre, découvrez une série de sketchs inspirés des traditions et des petits travers des fêtes de fin d'année. Spectacle déconseillé au moins de 13 ans. Rendez-vous au Théâtre de Lille, réservation sur ticket.nc.
J'ai oublié l'apéro, on n'a rien à servir.
Relax, j'ai commandé la plaque pizza à la Maison du Pain.
Une plaque? Mais c'est quoi ça? 24 parts? Mais tu penses à tout.
Je sais, et en bonus, j'ai même pris les desserts. Tartelettes framboises, cheesecake et tarte tatin, madame.
La plaque pizza sur commande, la Maison du Pain, complexe Le 4, 186 rue Jacques-Yécaoué. Faites vos courses autrement.
Tout le sport en 3 lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
Et on va donc parler rugby. Hier soir, pour nous, a eu lieu à Sydney le tirage au sort de la phase de poule de la prochaine Coupe du Monde qui se déroulera, vous le savez, en Australie en 2027, Lionel Sabot.
L'aventure Coupe du Monde qui a donc en quelque sorte débuté pour les 24 équipes qui seront en compétition pour tenter de soulever, après deux mois d'exercice, le trophée Webb Ellis. Les 24 équipes sont réparties, rappelons-le, en 6 poules de 4. L'équipe de France est dans la poule E avec le Japon, les États-Unis et les Samoa. Un groupe à la portée des bleus qui ont la voix assez libre jusqu'aux demi-finales. Écoutez Fabien Galthié, le sélectionneur de l'équipe de France.
Ce tirage au sort, en étant tête de série, on pouvait imaginer qu'on aurait une poule dans cette nouvelle formule abordable. On va quand même prendre le temps et respecter l'ensemble des équipes qui nous sont opposées et qui se sont qualifiées pour cette compétition. Et c'est vrai qu'ensuite, un parcours, après les huitièmes de finale, les quarts de finale, éventuellement une demi-finale face à soit l'Australie, soit la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. Là, il y a 9 titres de champion du monde qui sont dans ce tableau.
Un parcours qui va, et c'est bien normal, se corser donc pour les Bleus tout au long de la compétition. Les Bleus qui ne cachent pas leur ambition de devenir en 2027 champion du monde. Écoutez Fabien Galthié.
C'est notre ambition. De manière très claire, je vous réponds oui. Ça sera très difficile. C'est plus facile de ne pas l'être que d'obtenir ce Graal. Très clairement, le rugby français, l'équipe de France ne l'a jamais fait. Et notre ambition, c'est de l'atteindre. Pour nous, le staff, pour les joueurs qui composent cette équipe, à jamais les premiers, potentiellement.
Un coup d'œil aux autres groupes de cette phase de poule de la prochaine Coupe du Monde. Dans le groupe A, on retrouvera l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Chili et Hong Kong avec un match d'ouverture entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Ça promet. Dans le groupe B, on trouvera l'Afrique du Sud, l'équipe double tenante du titre, l'Italie, la Géorgie et la Roumanie. Dans le groupe C, l'Argentine, les Fidji, l'Espagne et le Canada. Dans le groupe D, l'Irlande, l'Écosse, l'Uruguay et le Portugal. Enfin, dans le groupe F, les Anglais, le Pays de Galles, Tonga et le Zimbabwe.